There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
S'il vous plaît, votre recette, merci. Avec les chips.
Qui a gueulé ?
Qui a parlé ?
Ma vie, j'aurais un manque de chat !
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious !
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal.
2006 avec Marcos, c'est la meilleure performance de sa carrière. Bon, à ce moment-là, il a 21 ans, il est jeune, il est en finale de l'Open d'Australie. Il a été champion du monde junior et il va faire la même année demi-finale à Wimbledon et il atteint le top 10 mondial.
Hello et bonne rentrée à tous sur le podcast Tennis Légende. C'est toujours Max et je suis méga heureux de vous retrouver pour ce 9e épisode après ceux de Joe Tsonga, Timea Bazinski, Magic Fabrice Santoro, Nelson Montfort, Petar Popovic, l'inimitable coach serbe et Marcos Baghdatis, plus souriant que nature. Sur ce podcast, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Et si tu veux être une légende dans notre cœur, rien d'aussi simple, ça prend 9 secondes pour nous mettre un commentaire sympa et 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui nous permet de faire connaître la chaîne et d'avoir des invités de renom. Pour cette deuxième partie, Marcos revient pour nous sur son craquage mémorable contre Stan Wawrinka à l'Open d'Australie. Il nous raconte son premier match gagné sur le circuit dans un contexte de ouf, les JO d'Athènes, chez lui, à 19 ans contre le français Grégory Caraz, avec la cérémonie d'ouverture dans un stade de 90 000 personnes en prime. Marcos nous livre la raison profonde pour laquelle il a décidé de jouer au tennis. Il nous parlera de sa femme, rencontrée sur le circuit, et même de sa demande en mariage, faite sur le tournoi de Nice. On évoquera son prize money, sans langue de bois, près de 9 millions de dollars, la particularité du marché chypriote pour les sponsors. Puis on verra ce qui anime Marcos pour son après-carrière. On entend un peu ses enfants à la fin, mais en même temps, c'était son plus grand rêve, au-delà du tennis, de fonder une famille, alors que demander de plus ? Comme d'habitude, l'échange est à retrouver également sur YouTube. Abonnez-vous et mettez-nous un commentaire, c'est toujours un bonheur de vous lire. Place à cette deuxième partie avec Marcos Baghdatis. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Le tournoi que tu aurais préféré gagner sur le circuit, c'était lequel finalement ?
Bah, Wimbledon. Bah, c'est l'histoire du tennis quand même.
Est-ce que tu peux nous raconter ce légendaire pétage de plomb qui s'est produit à l'Open d'Australie en 2013 contre Wawrinka ? La vidéo fait presque 3 millions de vues. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcos ?
Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai craqué. Je ne suis pas fier de moi. J'ai toujours dit que c'est un moment de ma carrière que je ne suis pas vraiment fier parce que ce n'est pas l'image qu'il faut, bah, je veux donner aux jeunes joueurs de tennis sportif. Et j'ai craqué complètement. Quoi. J'ai craqué parce que la tactique de mon entraîneur, qu'on a mis avec mon entraîneur, était pas la bonne contre Stan Wawrinka et j'étais énervé sur moi parce que je continuais à la faire pendant 2 sets sans la changer et j'ai perdu 2 sets et j'étais tellement énervé contre moi-même parce que j'étais tellement con de continuer la tactique quand j'ai vu au début du match que c'était pas la bonne.
Ouais.
Donc après 2 sets je complètement craqué. Je comprends mon craqué parce que je jouais bien, je me sentais bien. Honnêtement, c'est juste la tactique elle était pas bonne. Et je regarde mon coach, ma femme, qui me font des signes, c'est bien. Et là, je craquais complet parce que c'est pas bien. Tu perds 2-7-0. Qu'est-ce qui est bien? Donc, voilà.
Et j'ai lu que tu avais eu, entre guillemets, que 600 euros d'amende.
Ouais.
C'est pas énorme finalement par rapport au nombre de raquettes et à la visibilité du truc, c'est quand même, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que déjà je suis pas en train de je le dis, hein, c'est pas bien qu'est-ce que je fais, mais quand même c'était drôle pour beaucoup de gens. Et j'étais pas agressif du tout avec personne. Il y avait de l'espace, il y avait personne que je pouvais, tu vois, c'est que, pas comme si je jetais la raquette quelque part, c'est par terre, c'est ok, je suis d'accord, c'est pas dans le terrain, c'est en dehors. Donc, ils m'ont expliqué, c'est pas bien, mais ça va, t'étais pas agressif, j'étais pas agressif avec personne, avec, même si je prenais plus, je accepterais, et voilà, quoi, c'est comme ça.
De quelle manière t'as fait évoluer ton jeu pendant ta carrière?
Écoute, j'ai essayé d'améliorer beaucoup mon service et mon coup droit, surtout à la fin de ma carrière, parce que je sentais physiquement que je n'arrivais pas, tu vois, à garder le niveau pendant beaucoup de temps. Donc j'essayais d'être plus agressif, essayer d'aller beaucoup plus long ligne, de risquer un petit peu plus, et surtout mon service, quoi, essayer de gagner des free points avec mon service.
Tu peux nous raconter le premier match gagné sur le circuit ATP contre Grégory Caraz? C'est les JO de Pékin, c'est ça, non?
Ouais, les JO de Pékin. Les JO d'Athènes.
Les JO d'Athènes, oui, encore mieux, chez toi.
Ouais, chez moi. Donc, en fait, bon, déjà, les JO d'Athènes, chez moi, j'étais vraiment chanceux de pouvoir les jouer. C'était en 2004, j'avais 19 ans. J'ai eu le wild card de l'ETF et c'était un moment exceptionnel pour moi. C'était un moment où j'oublierai jamais parce que déjà de jouer les JO, ok, c'était un rêve, mais de les jouer chez moi, c'est quand même incroyable. Le match contre Grégory Caraz, c'était un match très très usant mentalement parce que j'avais un stress incroyable. Comme tu dis, c'est la première fois, je pense, que je bats un mec top 100. Et c'était incroyable. L'ambiance, l'atmosphère, tout. Déjà, les JO dans le village, c'était énorme de pouvoir partager les tables à manger ou des trucs avec des grands athlètes du monde. Que je regardais quand j'étais petit à la télé. Donc, c'était déjà énorme. Et le match, il y avait beaucoup d'émotions, quoi. Il y avait beaucoup d'émotions. Je le gagne en 6-3 au troisième set, si je me souviens bien. Et après le match, c'était vraiment émotionnel pour moi, pour ma famille, avec toute ma famille. C'est la première fois que j'avais tous mes potes, toute ma famille dans un terrain de tennis pour moi, et c'était un moment exceptionnel, quoi.
Deuxième tour, tu joues qui?
Kiefer.
Ah oui, Nicolas Kiefer. La cérémonie d'ouverture, c'était incroyable aussi, non?
Ouais, c'était incroyable. C'était dans le stade olympique à Athènes où, tu vois, quand j'étais jeune, j'ai regardé des matchs de foot qui passaient dans ce stade-là. Et de arriver dans ce stade avec 90 000 personnes pleines, c'était un truc énorme, quoi, un truc de dingue pour moi, pour mon pays, quoi.
Tu as participé à deux JO?
J'ai participé en 2012 à Londres. Je perds contre Andy Murray.
Est-ce que sur le court, tu avais des superstitions un peu improbables, tu vois, tu faisais passer la balle entre les jambes?
J'avais des trucs, je marchais pas sur les lignes quand je marchais. Quand je jouais, tu peux pas contrôler ça, mais quand je marchais sur le court, je marchais pas sur les lignes. Ouais, avec mes bouteilles, avec mon sac où je mets mon sac, mes raquettes, là. Je joue avec la même raquette toujours.
Quand tu faisais passer la balle entre tes jambes avant le service, c'était juste une habitude?
Ouais, j'ai vu Roger Federer qui le faisait un petit peu, pas autant que moi, un petit peu. Et après, c'est moi, je l'ai pris par lui et je commençais à le faire tout le temps.
Et quand tu embrasses la croix et le terrain à la fin du match, tu remercies quelqu'un en particulier ou c'est quoi comme... Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que cette croix, c'est mon frère qui me l'a donnée. Mon grand frère. En fait, c'est à cause de lui que je joue au tennis. C'est grâce à lui que je joue au tennis. D'accord. C'est grâce à lui que parce que, comme je t'ai dit au début de la conversation, c'est en fait, il a eu un accident quand il avait 15 ans. Il pouvait pas, il pouvait pas continuer son rêve de devenir joueur de tennis professionnel. Il me l'a donné et je le portais toujours avec moi parce que voilà, ça me donnait de la power, quoi, de l'envie, de la force et voilà.
Quel était le joueur sur le circuit avec lequel tu rigolais le plus? Le joueur qui te faisait le plus rire?
Pas Michael Ledroit.
Il vient d'un truc un peu incroyable avec lui.
Quand il se cache dans le locker de Ljubicic, quoi.
C'était là?
Ouais, j'étais là. Ouais. C'était à Miami.
Le joueur le plus fou sur un terrain?
Que je jouais, il y en a quelques-uns. Il y en a. Bah, que je jouais, contre moi, il était fou, c'est Benoît Paire. Fonini, quoi.
Le joueur que tu as le plus battu?
Je sais pas.
Et le joueur qui t'a plus battu, toi?
Bah, Djokovic.
Combien de fois, tu sais?
Ouais, 11 fois, je pense. Je sais pas, même pas. 11, 12, 13, je sais pas.
Et quand tu rentrais sur le court, tu disais à chaque fois que tu avais peut-être la clé ou tu savais que c'était très, très compliqué, quoi.
Ouais, j'avais la clé. Je pensais que je peux trouver la solution, mais chaque fois, je trouvais pas la solution. Chaque tactique que je faisais, tu vois, il me fermait la porte. Beaucoup de fois, j'étais pas loin. Beaucoup de fois, je n'arrivais jamais à le battre.
La plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit?
Tu veux dire où je me sens le mieux sur le terrain?
En fait, c'était pas ça le sens au départ. C'était la personne la plus belle que tu as rencontrée. Mais on peut commencer par la fois où tu t'es le mieux senti sur le terrain. Ouais.
Pas contre Diego Schwartzman à Houston.
C'était en quelle année?
2016. Ouais. Je le bats 6-0.
Putain, deux bulles. Boum.
Ouais, sur terre. Donc, c'était pas vraiment ma surface préférée, mais ce jour-là, je faisais qu'est-ce que je voulais avec la balle.
Tu sais grâce à quoi? Tu sais comment ça se fait?
Ouais, il y a des jours comme ça. Lui, je pense que lui, il a pas fait son meilleur match non plus, mais je fermais toutes les portes, quoi. Je faisais des passings à une main, tu vois. Je sais pas. Ça arrive et je sais pas pourquoi. J'ai pas fait quelque chose de différent.
En termes de personne, tu fais la rencontre humaine que tu as faite sur le circuit?
Ma femme.
Comment vous êtes rencontrés justement?
À Sydney. On s'est rencontrés à Brisbane. On a commencé à, comme on dit aux États-Unis, date. Mais on a commencé à sortir à Sydney, mais on s'est rencontrés en 2009 à Melbourne.
Et tu as fait ta demande sur le circuit? Ta demande en mariage?
Ouais, à Nice, pendant le tournoi de Nice.
C'est bon ça. La plus grosse fiesta que tu as faite sur le circuit? La plus grosse partie?
Oh putain. Avec les joueurs, c'était plutôt dans les challengers quand on était plus jeunes. Avec Dudi Sela, par exemple, au Brésil, on a fait une bonne. Avec Andreissa, Dudi Sela, Melo, on a fait une bonne.
Ça, dans quelle ville?
À Belo Horizonte.
Génial. Marcos, tu as gagné 8 918 917 $. Qu'est-ce que tu penses de ce montant?
Rien. Pour moi, je suis heureux de pouvoir avoir une très jolie et, comment dire, très bonne famille. J'ai trois enfants, j'ai une très belle femme. J'ai toujours voulu ça et bon, cet argent m'a aidé à les supporter, à être là pour eux, à aider beaucoup de gens de ma famille aussi, mes parents. Et voilà quoi, c'est ça. L'argent, pour moi, c'est pour ça qu'on a besoin. Donc, si c'est 8 millions, 6 millions ou 10 millions, ça, voilà, pour moi, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte, c'est avec cet argent-là, c'est pouvoir aider, faire les choses et voilà, quoi.
Est-ce que tu te souviens du premier gros chèque que tu as gagné et ce que tu as ressenti?
C'était à Bâle, quand je passais en 2005, quand je passais les qualifs et je fais finale. Bah, j'ai ressenti pas de différence, quoi. Tu vois, pas de différence. Pour moi, c'était plutôt, putain, tu fais finale à Bâle, ton ranking, il monte. Je pouvais tableau dans les grands chelems. C'est, voilà, quoi, le chèque lui-même.
Le plus gros craquage, la plus grosse folie financière qui était faite sur le circuit et qui finalement n'avait pas beaucoup de sens. Tu penses que c'est quoi?
Bah, écoute, j'étais pas trop.
Dépensier?
J'étais pas trop, quoi. J'avais besoin de voiture. Bon, j'ai acheté une voiture que j'aime. Pas une Aston Martin ou une Ferrari, mais jamais eu des montres. Je suis pas trop montre. C'était plutôt le placement. J'ai placé mon argent dans l'immobilier un petit peu et un petit peu dans la terre à Chypre. Et j'achetais, par exemple, j'ai aidé mon frère à acheter un appart, j'ai aidé mes parents à acheter une maison. Donc, pour moi, c'était plutôt ça, quoi. C'était pas, je suis pas trop voiture, je suis pas trop dépenseur, quoi. Voilà, donc.
T'as investi à Chypre essentiellement?
Ouais, j'ai investi à Chypre, et voilà, quoi. Parce que je connais, j'étais là-bas, j'avais des personnes de là-bas que je faisais confiance, et voilà, quoi.
Avec le recul, pourquoi est-ce que toi, t'as réussi à être joueur de tennis professionnel et pas tes frères, les dizaines de mecs qui étaient à l'académie, pourquoi toi et pas les autres?
Parce que je pense que c'est mentalement, quoi. Je pense pas que c'est tennistiquement. Je pense que c'était mentalement. Je pense que je prenais des choses plus que les autres, peut-être. J'étais plus régulier dans ma vie. Moi, je me souviens de, je te donne l'exemple, de 14 à 21 ans, ou 20 ans, ou 19 ans, ou à peu près là. J'étais allé me coucher à 9h30 du soir et je me réveillais à 6h30 du matin tous les jours, tu vois. Donc, c'était, quand on avait un exercice à faire, toujours, on avait 10 répétitions à faire. Moi, je faisais 11. Je pense que c'est dans la tête, tu vois. Je toujours voulais plus. Je toujours faisais plus. Bon, il y a des fois que j'avais pas envie, ça c'est sûr. Je dis pas que je suis une machine, mais je sais pas. Je peux pas dire. Peut-être plus intelligent. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas vraiment parce que. Mais je pense pour réussir, il faut faire des choses, il faut vouloir plus que qu'est-ce qu'il faut faire, il faut toucher tes limites, il faut arriver à. Je me souviens bien quand j'avais mal aux muscles, quand je faisais un exercice, je me disais à moi et mon préparateur physique, j'aime ça, quoi. Il faut aimer ça, il faut être un masochiste, quoi. Tu vois, il y a des gens qui peuvent pas faire ça, ils peuvent pas être masochistes. Chaque fois, ils ont une douleur aux muscles, c'est non, je peux plus, j'arrête. Donc, je pense que c'est ça, quoi. C'est ça qui m'a fait faire réussir. Plus le talent, bien sûr, mais je pense pas que c'est que le talent, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux qui n'arrivent pas, quoi.
T'as arrêté l'école à quel âge, Marcos?
À 14 ans.
Pour apprendre le français, ça a été dur. En
6 mois, j'ai appris le français. 6 mois, j'ai appris le français. Ma famille d'accueil, elle m'a aidé beaucoup. Bon, pas que en apprenant le français, sur pas mal de choses aussi, mais voilà, sur le français, ma famille d'accueil, je vivais en France quand même pendant, dans ces périodes-là, j'entendais la langue beaucoup. Il y avait beaucoup de gens en France à cette époque-là qui parlaient pas anglais, toujours qui parlent pas anglais. En France, c'est un pays où ils parlent pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais, donc j'étais obligé de parler français, obligé de comprendre. Et aussi, ma famille d'accueil, le père, et Laurent et Nathalie, et la mère, ils ne parlaient pas beaucoup anglais. Nathalie, ça va, Laurent, il ne parlait pas beaucoup, donc il me parlait toujours en français, et voilà, quoi.
Tu leur envoies un message de temps en temps à ta famille d'accueil, non?
Bah oui.
T'as gardé contact, hein? C'est bon, ça.
Bah oui.
Est-ce que tu continues le sport aujourd'hui, après ta carrière?
Non. Un petit peu quand même, parce que je joue un petit peu au tennis, parce que j'ai des exhibitions et tout, mais par exemple là, ça fait 3 semaines, on est à la maison, bon, j'étais allé courir une fois, j'ai pas envie.
Ça te manque pas plus que ça, ouais?
Non, vraiment, moi, pas vraiment, pas énormément, je suis bien. Bon, si j'ai avec des enfants, t'as pas vraiment, tu vois, c'est pas comme si t'as rien d'autre à faire et tu te dis, bon, j'en ai marre, je vais aller courir ou je cours après les enfants, tout.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
La journée, donc voilà, il y a ça, mais sinon, voilà, le sport, ça me manque un petit peu, j'ai envie de le faire avec quand j'ai du temps, quand je suis bien, et voilà, quoi, quand les petits vont commencer à re-aller à l'école, le matin, je vais aller avec ma femme faire un petit peu de sport. Et en plus, ma femme, elle était enceinte, là, quand j'ai arrêté ma carrière pendant 5 mois, elle était enceinte, quand on était à la maison, donc elle pouvait pas faire du sport, donc moi non plus, donc moi, je faisais pas non plus, donc voilà.
Ton tout premier sponsor, c'était Nike, c'est ça?
Non, c'était Reebok. Ça, c'est India. Say hello, India.
Salut, India.
Non, c'était Reebok. C'était Reebok quand j'avais 13 ans.
Ok.
Reebok à Chypre.
À Chypre, ouais, d'accord. Après, tu as eu à l'académie.
Sergio Tacchini, Nike, Adidas et Mizuno.
Et quand tu avais le drapeau chypriote sur tes tenues?
On a arrêté avec Nike pendant. En 2004, je décidais de mettre le drapeau parce qu'il n'y avait aucune compagnie qui voulait me sponsoriser.
Ouais.
Et après, quand je suis fini à la balle, il y a Adidas qui est venu et voulait me sponsoriser. Donc, j'ai mis Adidas. Et après, avec Adidas aussi, ça s'est arrêté pendant un an, en 2010. Donc, j'ai décidé de mettre le drapeau de Chypre pendant un an. Et après, je re-signé avec Adidas.
C'est étonnant que tu n'avais pas de sponsor, tu es quand même... Enfin, tu faisais de gros résultats, c'était à cause des blessures, c'était quoi?
Non, parce que je suis chypriote, il n'y a pas de market, il n'y a pas de... There is no market à Chypre. Ah oui.
Et Mizuno, comment ça se fait qu'eux croient particulièrement en toi aujourd'hui?
Ils voulaient rentrer dans le tennis, ils trouvaient que moi, c'était la bonne personne pour commencer à rentrer dans le tennis il y a 4 ans. Et après, on a signé un contrat pendant 2-3 ans, et après, on a gardé bon contact, donc voilà quoi.
Sur ton après-carrière, aujourd'hui, tu fais des exhibitions, tu as fait un peu de coaching?
Ouais, bah, j'ai tout essayé pour le moment, j'essaie tout pour voir qu'est-ce que j'aime. Mon objectif, c'est monter un petit club à Chypre, ici, avec ma femme, et petit à petit, peut-être ramener des gens de l'étranger. Le temps à Chypre, il est bien, même ouais. En novembre, décembre, où les joueurs, ils veulent faire la préparation off-season, et le temps il est bien, donc je vais faire des installations pour qu'ils peuvent venir à Chypre pour s'entraîner quoi.
Ok.
Et aider aussi le tennis à Chypre.
Yes. Tu fais combien d'exhibitions par an?
Entre 9 à 12.
Et j'ai vu, t'en faisais une au Royal Albert Hall, c'est ça?
Exceptionnel.
C'est un lieu incroyable. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe?
Bah déjà, quand tu rentres dedans, c'est la lumière, le son, le bruit, quand quelqu'un y parle ou quand tu bouges sur le terrain, tu vois, le son est exceptionnel. La façon que tu entends les choses, c'est exceptionnel. Et l'ambiance dedans, quand il y a des gens qui applaudissent, qui gueulent, qui rigolent, c'est encore mieux. C'est pas très grand, tu vois, c'est pas comme US Open où t'as 22 000 personnes, mais quand tu rentres dedans, tu sens un truc, l'histoire, c'est quelque chose de spécial, quoi.
T'as joué avec qui là-bas?
Ferrero, Philippoussis, Haas, Gerkuzetsky, Banisevic, bon, il y avait tout le monde, quoi. Tous les vieux.
Tu fais le senior tour un petit peu. Hein.
Bah ouais, un petit peu. C'est rigolo, c'est sympa.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu coaches aujourd'hui?
J'ai mes idées à moi et j'essaie de les expliquer aux joueurs. Quoi. Je ressens, j'aime bien.
Ça te plaît, ouais? T'as accompagné qui jusqu'à maintenant?
Svitolina, et c'est tout.
Sur combien de semaines?
On a fait 6 semaines ensemble, 2 semaines à Dubaï, préparation, on a fait 4 semaines en Australie. En fait, je fais très peu de semaines avec elle, et après, il y a le truc qui est arrivé, qu'on a un petit peu arrêté. Au Mexique, à Indian Wells, Miami, je ne pouvais pas voyager à cause de difficultés familiaux. On s'est dit, après Miami, on discute pour voir quelles semaines on peut faire ensemble en Europe, et après tout, le virus est arrivé, donc bon, on verra bien.
T'aimes bien retourner sur le circuit avec elle? Enfin, vous avez une bonne complicité?
Ouais, je la connais depuis pas mal de temps. On a discuté de son tennis beaucoup de fois avant. Je peux pas dire que je l'ai aidé, mais je parlais beaucoup avec elle. Et ouais, j'aimerais bien, si c'est possible, à continuer à l'aider, à trouver une solution, parce que je pense que elle peut gagner un grand chelem. C'est dommage que cette fille, elle n'a pas gagné encore un grand chelem. Et c'est dommage que, parce que moi, je pense qu'elle peut aller jusqu'au numéro 1 mondial.
Tu as commenté aussi pour le dernier master en grec, c'est bien ça?
Ouais, pour une télé grecque. Ouais.
Et c'est quelque chose qui te plaît, que tu as envie de continuer de faire, ou ça reste une expérience assez, assez
ouais,
rare.
Pourquoi pas, c'est sympa, je trouve que c'est vraiment sympa. Tu vois le tennis dans une autre vision. Tu ne regardes pas comme un fan. Tu vois, il faut analyser pas chaque point, mais il faut analyser le jeu. Et ouais, je trouve que c'est sympa, quoi. C'est cool.
Ici, sur l'île de Chypre, tout le monde te reconnaît, quasiment, non ?
Bah, tout le monde, la génération qui ont vécu moins, ouais. Les plus jeunes maintenant, non, pas vraiment. Bah, oui, mais voilà, quoi.
Et ça te plaît ou tu préférerais être anonyme ou comment tu vis la notoriété?
Bah, tu prends l'habitude, je peux dire. Tu prends l'habitude. Je peux pas dire que ça te plaît ou pas, tu vois. Tu prends l'habitude, c'est comme ça. Et vraiment, ils sont positifs, les gens à Chypre sont vraiment positifs avec moi. Jamais de toi dans la rue, tu vas au supermarché avec tes enfants, ils sont super sympas, tu vois. Donc les gens sont sympas, ils disent que les bonnes choses. Voilà.
Est-ce que pour toi, Chypre, c'est le plus bel endroit du monde?
Le plus bel endroit, non, parce qu'il y a beaucoup de beaux endroits dans le monde, mais pour moi, pour grandir une famille, pour avoir une vie tranquille, pour une vie safe, sans perdre du temps dans le trafic, sans perdre du temps, tu vois, dans les trucs, tout est prêt. Moi, j'adore parce que, voilà, tu peux avoir le temps, il est exceptionnel. T'as 8 mois dans l'année, t'as du soleil, tu peux te baigner. Il y a la plage, il y a les montagnes où tu peux skier à 45 minutes de la plage. Donc, c'est cool et sympa, quoi. Et c'est tranquille. Moi, j'aime la tranquillité.
Quel est le plus gros regret de ta carrière?
J'en ai pas. Mais si je pouvais refaire ma carrière, tu vois, je peux pas dire que je changerais rien. Bien sûr, je changerais de chemin que j'ai pris ou des décisions que j'ai pris ou des choses. Il n'y a pas quelque chose de spécifique, mais c'est sûr que je trouverais un truc pour changer parce que je pense que je pouvais faire mieux, éviter quelques blessures, travailler peut-être un petit peu différemment à des moments, mais regretter, c'est dur à dire, regretter après, tu vois, parce que je sais où je viens. Si tu me dis à 12 ans, t'es chypriote, tu vas réussir, qu'est-ce que t'as réussi? Moi, je signe direct. Ouais. Et voilà, quoi. Donc regretter, c'est un mot très, très dur à dire. Mais oui, je pouvais faire mieux, ça c'est sûr. Tout le monde peut faire mieux. Même Federer, si tu le demandes, je pense qu'il peut te dire, ouais, je pouvais gagner Roland Garros au lieu d'une fois, trois fois. Mais voilà, quoi. C'est la vie, quoi.
Et ta plus grande fierté?
Ben, c'est ma famille, quoi. J'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu des enfants. Et voilà, ma priorité à partir de 27 ans, 28 ans, c'était ma famille, c'était mes enfants. Et voilà.
Et ta plus grande fierté sur ta carrière, précisément?
Ben, c'est pouvoir faire ce que j'ai fait en devenant de rien, quoi. De rien. Ouais. C'est ça, quoi. C'est comme je dis. Moi, je sais d'où je viens. Je sais qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir où je suis et je suis fier de moi de pouvoir faire ça. L'autre chose que je suis fier, c'est pouvoir faire les enfants rêver, surtout de mon pays, de rêver, d'y croire eux-mêmes, de prendre la raquette et aller jouer au tennis. Tu vois, on n'avait pas beaucoup de jeunes à jouer au tennis à Chypre et maintenant on a plein de terrains, et c'est un petit peu grâce à moi. Donc ouais, ça, je suis fier de ça aussi, quoi.
Énorme. Pour terminer, j'ai quelques questions qui sortent un petit peu du tennis. Si tu n'avais pas été joueur, tu aurais fait quoi?
Footballeur.
Voilà. Quel poste?
Striker, attaquant.
Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne?
Tu essaies d'améliorer. Tous les jours, on fait des erreurs. On prend des décisions qui peut-être être bonnes ou pas bonnes. Les pas bonnes, tu les changes le jour d'après. Donc, tu essaies d'améliorer jour par jour, petit à petit. C'est pas dans un jour où tu deviens une bonne personne, c'est petit à petit, tu changes des choses que t'as pas fait hier, tu les fais demain, et petit à petit, tu deviens une meilleure personne naturellement, quoi.
Quelle est ta manière de te fixer des objectifs?
Chaque jour, ça change. Comme je dis, c'est jour par jour que tu améliores comme personne. Ouais, tu as un objectif en long terme. J'ai des objectifs dans le long terme. Mais petit à petit, tous les jours, tu apprends, tu parles avec des gens, tu discutes de tes objectifs, de tes trucs et tu apprends. C'est une learning process, quoi. C'est pas, tu vois, je fais ça et j'y vais.
Ok. Quel est le plat que tu cuisines le mieux, Marcos?
Il faut demander à ma femme, ça. Oui, Bobby. Can you come on second? We have a question for you. What is my what's the favorite dish I do? Carbonara. Voilà. Elle est bonne, ma carbonara.
Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
Ouais.
Ouais.
Bah, c'est le The Monk Who Sold His Ferrari.
Ok. Et t'en as retenu quoi?
Ça m'a ouvert des yeux sur la vie, sur comment me comporter, comment y être. Et voilà.
Tu l'as découvert à quel âge?
22, 20, 23, 24 ans.
Un film que tu adores?
Gladiator, Braveheart.
Le concert le plus dingue auquel tu as assisté?
J'ai jamais assisté à un concert.
Est-ce que tu pratiques la méditation?
Non.
Pas envie?
Non, mais la méditation, tu peux la faire pendant la journée toi-même ou le soir. Mais pratiquer, tu vois, me pratiquer, prendre une heure dans la journée où je fais de la méditation, non. Mais je la pratique en tant que personne, mais pas, voilà, je la pratique pas, non, voilà.
La période où tu as eu la plus grosse période de doute de ta vie?
C'était 2011. Je gagnais pas un match pendant 6 mois. J'avais deux années où je doutais beaucoup.
Et comment tu t'en es sorti?
Avec du temps, avec repasser par les choses basiques. Refaire les choses basiques, reprendre les choses basiques, recommencer depuis le début. J'étais limite prêt à aller faire des futurs.
Aujourd'hui, si tu devais coacher Marcos de 2011, tu lui dirais quoi pour qu'il se sorte de cette période-là?
De faire la même chose parce que je me suis sorti.
Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien?
Bah ouais, Your I can is stronger than your IQ. Ton tu peux, il est plus fort que ton IQ, quoi.
Est-ce qu'il y a une personne que tu pourrais nous recommander pour une interview, pour ce podcast, et que tu pourrais nous aider à avoir?
Ouais, Guillaume Père. Ouais, je pense que ça peut. Tu peux nous mettre ensemble.
Quels sont les meilleurs potes que tu gardes du circuit aujourd'hui, ceux avec qui tu as le plus contact?
Nico Almagro, un petit peu. Voilà, Doudi Sella, un petit peu Gilles Moulière, et voilà.
Pour terminer, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Marcos?
Health pour ma famille, quoi. C'est pas dingue, mais c'est le plus important pour moi. Donc,
yes.
J'ai pas besoin de choses dingues.
Merci beaucoup, Marcos. Vraiment, merci d'avoir pris le temps.
Je t'en prie, Maxime.
On l'a fait en 3-7, 3,5, presque 4.
Presque 4. J'ai gagné en 4, alors.
Bien joué. Merci, prends soin de toi.
Maxime. Bonne journée, toi aussi, man. Take care. Allez, bye bye. Bye bye.
Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'es vraiment solide et t'as sûrement parfait tout l'été. Surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis directement sur leur téléphone. Un grand merci à François et Fatbus Slim pour vos derniers commentaires, ainsi que Kev qui nous dit un vrai bravo à toute votre team pour la clarté des podcasts et la qualité des questions. Tout est très bien pensé et vous proposez une vraie plus-value à ce que l'on a l'habitude de lire et d'entendre sur notre sport favori. C'est ce qui nous pousse clairement à continuer, donc n'hésite surtout pas à venir nous dire ce que tu penses des épisodes en commentaire. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Un big merci à notre tout premier tipeur, John Cost. Ça nous a tout simplement fait l'effet d'une rétro gagnante en demi-volée et sur balle de break à 4-4 au troisième. Je vous laisse imaginer les palpitations qu'on a ressenties en découvrant la nouvelle. Et pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as le lien juste en dessous dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.